à partir du verset 23. Et nous lirons jusqu'au chapitre 11, verset 1. 1 Corinthiens 10, 23. Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. Vous pouvez manger de tout ce qui se vend au marché sans vous poser de questions, par scrupule de conscience sur l'origine de ces aliments. Car la terre et ses richesses appartiennent au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous désiriez accepter son invitation, mangez tranquillement de tout ce qu'on vous servira, sans vous poser de questions, par scrupule de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Cette viande a été offerte en sacrifice à une idole », alors n'en mangez pas, à cause de celui qui vous a prévenu et pour des raisons de conscience. Par conscience, j'entends évidemment non la vôtre, mais la sienne. Pourquoi, en effet, exposerais-je ma liberté à être condamné du fait qu'un autre a des scrupules de conscience ? Si je mange en remerciant Dieu, pourquoi serais-je critiqué au sujet d'un aliment pour lequel je rends grâce à Dieu ? Ainsi, que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Agissez comme moi, qui m'efforce en toutes choses de m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, mais je recherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. Amen. J'ai voulu choisir ce texte pour résumer la prédication que j'aimerais vous apporter maintenant. J'aurais tout aussi bien pu prendre le texte de Actes 15. Car dans Actes chapitre 15, certaines personnes dans l'Église affirment haut et fort que les chrétiens et les chrétiennes d'origine païenne ne peuvent pas être sauvés si ces derniers ne sont pas circoncis. Je parle évidemment des hommes. Cette position va entraîner une violente, mais une très violente altercation entre l'apôtre Paul et son ami Barnabas. L'altercation est tellement forte que les apôtres, les anciens et l'Église sont obligés de convoquer un concile. Un concile qui va être passablement agité, mais la décision va être prise à l'unanimité. Je lis. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous-mêmes de ne pas vous imposer d'autre fardeau que ce qui est indispensable. À partir de maintenant, abstenez-vous des viandes sacrifiées aux idoles, au sang des animaux étouffés et de l'inconduite sexuelle. l'obligation de la circoncision est abandonnée. C'est une grande victoire pour l'apôtre Paul, et évidemment du Saint-Esprit. Ça, c'est le chapitre 15 du livre des Actes. Passons, si vous le voulez bien, ce qui est une formule de politesse, parce que si vous ne voulez pas, on va le faire quand même, au chapitre 16. Paul choisit un collaborateur, jeune. Il s'appelle Timothée. Le père est grec, il n'est donc pas circoncis. Que fait Paul ? Il le circoncit à cause des Juifs de la région. Franchement, est-ce que vous trouvez ça cohérent ? Lorsque l'apôtre Paul dit « Mangez de tout ce qui se vend au marché », sans vous poser de questions de conscience personnelle, en disant cela, Paul ne respecte pas scrupuleusement les instructions d'acte 15. Et ma question, c'est finalement pourquoi ce flottement ? Serait-ce que les instructions ne le concernent pas ? Alors, j'entends, vous êtes probablement en train de vous dire, ces questions de menducation, de viande sacrifiée aux idoles, c'est des questions qui sont bien loin de nos préoccupations. Aujourd'hui, si je me rends au marché d'Ozoir, il n'y a plus de viande sacrifiée aux idoles. Ce texte ne nous intéresse donc pas. Eh bien, ce texte est pour nous. Et je ne dirais pas tant que ça. Je voudrais vous montrer que dans la manière de Paul, va se manifester des principes. Et que ces principes touchent directement notre propre pratique de l'Évangile dans notre vie quotidienne. En 1 Corinthiens chapitre 10, à propos des interdits alimentaires, que certains observent et d'autres non, Paul énonce le principe de ce qu'il va appeler la liberté du croyant. Et voici ce qu'il dit. « Pourquoi ma liberté serait-elle jugée par la conscience d'un autre ? Si moi je mange avec reconnaissance, pourquoi serais-je calomnié pour ce dont moi je rends grâce ?» C'est que Paul, qu'on le veuille ou non, a de fortes convictions, dont celle de la liberté. Mais sur certains points qui sont, il faut le rappeler, importants à l'époque, il n'impose pas sa conviction personnelle. Souvenez-vous d'où vient l'apôtre. Souvenez-vous de son expérience avec le Christ. L'expérience de Paul, il la vit d'abord en confrontation avec sa culture de pharisien. Il est intégriste. Il est totalement lié au légalisme. Et il n'a qu'un désir. Il n'a qu'un rêve. C'est de passer au fil de l'épée et de massacrer tous ces chrétiens. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a travaillé sa réflexion, qu'il a énormément travaillé sa réflexion sur la liberté du croyant. Quand Paul écrit « Là où est l'Esprit du Christ, là est la liberté », ou encore « Ne vous laissez pas frustrer votre liberté par les autres », ce sont des paroles qui ont du sens pour lui. La liberté vis-à-vis de la loi se manifeste par une liberté personnelle. Liberté de conviction. Liberté vis-à-vis du regard des autres. Et cette liberté résulte de l'Évangile. Elle découle du fait que la foi chrétienne a une dimension de relation de personne à personne avec Dieu. Et que cette relation est entièrement fondée sur la grâce. De cette relation intime à Dieu naît une liberté. Une liberté qui est une étape importante dans la croissance spirituelle. Dans ce que l'on a couramment appelé la sanctification. Et aux Galates, l'apôtre Paul leur rappellera au chapitre 5, c'est pour la liberté que le Christ vous a affranchi. C'est pour vous rendre libre. J'ai longtemps pensé que cette liberté personnelle d'affirmation de ses convictions était le point d'aboutissement de la maturité spirituelle. Je l'ai très longtemps pensé. Puis, en fréquentant l'Écriture, recherchant une meilleure connaissance de Jésus-Christ, petit à petit s'est dévoilé que cette liberté n'est finalement qu'une étape. C'est une étape importante, mais pas finale. Il y a une autre étape qui demeure et qui est beaucoup plus exigeante, qui est pour moi beaucoup plus importante et qui enracine plus profondément nos vies dans le Christ Jésus. Et cette étape, on peut la mettre à jour par un jeu de questions. Comment utilises-tu ta liberté ? Quelles sont les conséquences de ton usage de ta liberté sur les autres ? Es-tu libre vis-à-vis de ta liberté ? Ou est-ce que c'est ta liberté qui domine sur toi ? Éclairé par l'exemple du Christ, ce que j'appelle ma liberté de chrétien se révèle comme un mélange. Un mélange de liberté, mais aussi parfois d'égoïsme et d'immaturité. Ce qui fait qu'à un certain point, ma liberté m'empêche de me laisser conduire plus profondément en Jésus-Christ. Et ce qui fait que cette liberté-là me suffit dans une relation qui est, disons-le, superficielle avec Jésus. Dans l'Épître aux Galates, Paul poursuit. C'est le chapitre 5, verset 13. « Mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres. » Vivre sa liberté au regard des autres. Être capable de s'affirmer, c'est une étape indispensable de l'expérience de sa foi. Mais ce n'est qu'une étape, et nous devons passer par là. Mais qui veut se construire selon l'exemple de Jésus-Christ doit obligatoirement se laisser conduire plus loin. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul peut dire « Tout est permis ». « C'est pas moi qui ai écrit cela. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il faut aller voir l'apôtre Paul. Moi, je suis pour rien dans cette histoire. Paul écrit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas constructif. Alors que chacun cherche son propre intérêt, non. Que chacun cherche l'intérêt des autres. » Et c'est un texte que je voulais vous adresser, mais vous l'aurez compris, que j'adresse peut-être en premier à mes bien-aimés frères en Jésus-Christ, Paul, Christian et Joël. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas constructif. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais qu'il considère celui des autres. Le résumé de la loi, ce n'est donc pas « sois libre », mais le résumé de la loi, c'est « aime ton prochain ». C'est ça, le résumé de la loi. La liberté n'est qu'une illusion quand elle est réduite à une manifestation de l'amour de soi-même. La vraie liberté, c'est celle qui va me conduire à une totale disponibilité pour suivre Jésus-Christ. Sois un homme libre. Alors je sais qu'il y a autant de dangers à ajouter qu'à retrancher, mais je me permettrai, si ça sort d'ici, je saurais que c'est vous, hein. Je me permettrai de dire, sois une femme libre également. Mais sois aussi, parce que c'est important, libéré de toi-même. Sois un homme ou une femme libre, mais que ta liberté soit un outil au service de ton prochain. L'apôtre Paul, vous l'avez remarqué, écrit quelque chose de remarquable. Il dit, je cite, « Quoi que vous fassiez, faites tout pour... » Il y en a trois qui suivent. Alors on va le faire plus spontané. Hein. « Quoi que vous fassiez, faites tout pour... » Amen. J'ai eu peur. On peut couper le chauffage là, non? Il est coupé, merci. Alors, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est beau, mais ce n'est pas une formule creuse. Qu'est-ce que ça veut dire, agir pour la gloire de Dieu? Vous savez où? C'est bien de connaître les textes. Mais encore faut-il savoir ce qu'il faut faire. Est-ce que nous savons ce qu'il faut faire pour agir pour la gloire de Dieu? Ce n'est pas une formule creuse. Et en étudiant le texte, parce que plus je vieillis, plus je deviens amoureux du texte, et pour vous dire que je suis pleinement amoureux parce que j'y étais déjà au début, mais je crois pouvoir dire que agir pour la gloire de Dieu, c'est agir en prenant exemple, en s'inspirant de la manière dont Dieu s'est révélé à nous en Jésus-Christ. Comment Dieu s'est-il révélé à nous? Il a envoyé, et Manu nous l'a rappelé, ce qu'il avait de plus grand, ce qu'il avait de plus cher, son Fils bien-aimé. Alors, regardez au verset 33, Paul exprime clairement le principe qu'il conduit. L'attitude de Paul, ce n'est pas l'attitude d'un ado tout fiérot de manifester sa liberté, et peu importe les conséquences que cela va apporter, pas du tout. Paul manifeste sa liberté vis-à-vis de lui-même dans l'intérêt spirituel de la multitude. Et le but de la liberté de Paul, regardez-le, il est noir sur blanc, c'est pour que cette foule, ce peuple, soit sauvé. C'est le comportement de Paul. Et c'est ce qui éclaire son comportement. Afin qu'elle soit sauvée. Et Paul comprend que certaines des exigences qu'il s'impose à lui-même, ou certaines libertés qu'il vit profondément, peuvent être des pierres d'achoppement inutiles sur le chemin du salut des hommes. Il y a parfois une attitude qui est, pour les autres, une pierre d'achoppement. Je me souviens, dans ma jeunesse, quand j'étais responsable du groupe de couple, mon pasteur est venu me dire un jour, « Jean-Claude, mon rêve, c'est de te voir prêcher, mais tu ne prêcheras pas. » Je lui ai dit, « Mais pourquoi ?» Et il m'a dit, « Parce qu'il faut que tu te coupes les cheveux. Je ne veux pas te voir, là, sur l'estrade, derrière la chaire, avec tes cheveux jusque-là. » C'est profondément choquant. Et je crois que nous avons tous et toutes des attitudes parfois qui choquent les autres. Et l'idée, c'est de ne pas être une pierre d'achoppement. Parce que cette pierre d'achoppement, elle est inutile sur le chemin du salut des hommes. Alors j'en reviens à ce que je disais au début. Paul va circoncire Timothée parce que son but, ce n'est de ne pas poser une barrière à ses frères juifs sur le chemin de la foi. Sa conviction, elle est tout autre. Sa conviction, elle est tout autre. Il ne désire pas circoncire Timothée, mais il le fait pour ne pas poser une barrière à ses frères juifs sur le chemin de la foi. Le plus important n'est pas de maintenir à tout prix une conviction particulière. Paul ne confond pas ses opinions et la croix du Christ qui sauve le monde. Alors je voudrais terminer. Je voudrais terminer par cette question. Et nous ? Qui allons-nous circoncire ? À quelle image de toi-même vas-tu renoncer ce matin ? Cette image de soi-même peut être une conviction particulière, un aspect de notre personnalité. C'est une zone de ce moi qui n'est pas totalement ouvert à la lumière du Christ. Vous connaissez tous et toutes ce que disait Martin Luther, ce grand réformateur du XVIe siècle. Il disait chaque jour j'essaie de noyer mon moi. Et chaque jour je m'aperçois que ce coquin, il sait super bien nager. C'est pas évident d'éliminer notre moi. Mais je dois éliminer ce moi qui n'est pas totalement ouvert à la lumière de Jésus-Christ. Alors évidemment, tout le monde sera d'accord ce matin pour te dire, tu peux chercher une église qui soit conforme à toutes tes convictions. Tu peux très bien la chercher, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande. Si tu penses l'avoir trouvée, prends rendez-vous avec moi. Parce qu'il y a un grand danger. Et je t'aime. Et je voudrais t'éviter de tomber dans le panneau. Ne cherche pas une église qui soit à ton image, mais cherche plutôt une église qui soit conforme à l'image de Jésus-Christ. Ce qui est différent. L'église fidèle, ce n'est pas seulement par la confession de foi. Elle doit être aussi fidèle par l'exemple de Jésus-Christ. Ce Jésus qui enseigne que la loi a été faite pour les hommes et non les hommes pour la loi. Alors encore moins pour ma loi. Ce Jésus qui s'est dépouillé de la gloire divine pour venir nous rejoindre. Cette vraie liberté, c'est un dépouillement. Mais pour nous, elle est dépouillement douloureux de petites choses secondaires. Je l'ai dit et répété, vous le savez, vous qui me connaissez maintenant, frères et sœurs. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je pense que dans cette noble assistance, il y a des gens qui ne me connaissent pas, ça fait 35 ans que je suis pasteur, ça fait 5 ans que je suis à Auzoy, et ça fait 30 ans que j'ai toujours dit que je ne serai jamais pasteur d'une église où on sert des petits verres et des petits bouts de pain. Et je l'ai claironné pendant plus de 30 ans. Et quand on m'a demandé de venir à Auzoy, la première chose que j'ai remarquée, c'est qu'on prenait des petits verres et qu'on prenait des petits bouts de pain. Et là, j'ai dit à Dieu, « T'es trop fort, Seigneur. T'es trop fort. » Ça a été au début, je dois vous l'avouer, très difficile pour moi. Mais l'unité de l'Église, la communion fraternelle, c'était pour moi beaucoup plus important que les signes qui les manifestent. Alors, à chacun d'entre vous, évidemment, mais peut-être particulièrement à Paul, peut-être plus particulièrement à Joël, peut-être plus particulièrement à Christian, je voudrais leur dire, tu as des exigences légitimes, excellentes, probablement sur la musique, sur les chants, sur le culte. Et je suis sûr que tu peux défendre tes convictions brillamment. Et j'ai envie de vous dire, ou de te dire, fais-le, mais quand c'est le temps pour le faire. Fais-le quand c'est le temps pour le faire. Ne renonce pas à tes convictions. Mais avec l'apôtre Paul, apprends de Jésus la vraie liberté. Comme Jésus soit un serviteur libre, pas un maître. Un maître qui est là pour imposer sa loi, pour imposer ses convictions. Sois un ancien libre. Je ne sais pas si ça se dit, mais moi je l'aurais inventé. Sois un ancien libre. Et je termine, ça fait trois fois que je le dis déjà, mais je vais terminer. Pour Paul, il y a la seigneurie de Jésus-Christ qui est manifestée à la croix. Il y a la grâce, la gratuité totale du salut. Il y a les 10 commandements. Vous les connaissez. Les 10 commandements, c'est la foi chrétienne. Tout le reste est second. Je crois que dans l'Église, il y a un temps pour le débat, mais il y a aussi un temps pour l'unité. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur ce point. Mais toi et moi, c'est par la grâce que Dieu nous sauve. C'est par la grâce que Dieu nous appelle. Et je dis, moi, que la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans nos raidissements. La gloire de Dieu se manifestera dans l'amour. L'amour que je manifesterai pour toi et que tu manifesteras pour moi. Et que nous manifesterons ensemble pour Jésus-Christ. Rappelons-nous cette parole. Le monde verra que vous êtes chrétien à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Estime les autres supérieurs à toi. Ne regarde pas à toi-même, intéresse-toi aux autres. Aie en toi l'état d'esprit qui est en Jésus-Christ. Alors ne renoncez pas à votre foi. Si tu renonces à la liberté que t'accorde l'esprit, tu resteras un gamin dans la foi. Je répète parce que c'est important. Si tu renonces à ta liberté que t'accorde l'Esprit, tu resteras un gamin dans la foi. Laisse-toi conduire par la parole de Dieu et tu grandiras. Chacun de nous a eu des enfants. Moi, je me souviens les premiers pas de ma fille. Je l'ai placée, avec mon épouse, on l'a placée au fond, là, près du mur. On s'est mis à l'autre bout et on lui a dit « Viens, ma chérie ». Alors, elle était là, elle tombait, elle se relevait, elle tombait. Puis un jour, elle est arrivée jusqu'à nous. Et je me souviens, on était en famille ce jour-là. Et tout le monde a applaudi. Moi, je traverse la pièce, mais personne ne m'applaudit. C'est bizarre. C'est évident que les gens ne m'applaudissent pas, parce qu'on attend autre chose de moi. Mais c'est peut-être évident que l'Église attend autre chose de toi. Toi qui es dans l'Église depuis tant et tant d'années, quelle est ta place dans l'Église? Considère les intérêts comme étant, tes intérêts comme étant au-dessus des autres, mais les autres au-dessus de toi. C'est là que tu seras béni. Ne laisse surtout pas ta liberté t'empêcher d'imiter ton Seigneur. Tu seras peut-être fier de toi, mais tu seras un piètre disciple. Que Dieu nous conduise et que Dieu bénisse son Église à Ozoir. Amen.